j'aimerais vous conduire toujours dans Éphésiens chapitre 6. Nous verrons ce soir le troisième volet du combat spirituel, le combat de la foi, le vrai combat. C'est une vraie guerre spirituelle qui se déclenche bien sûr quand nous voulons vivre en tant que disciples, nous voulons obéir à la parole, être remplis du Saint-Esprit, alors nous sommes confrontés à ces puissances, à ces forces spirituelles qui se manifestent autour de nous et au travers d'êtres physiques, eh bien ces puissances se manifestent. Nous sommes engagés dans cette bataille. Sinon, si nous ne sommes pas engagés dans cette bataille, nous allons subir. Tout nous subirons, alors que le Seigneur nous appelle à combattre et il nous appelle à de grandes victoires. Alors, Éphésiens 6, verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Amen. Souvenons-nous que Christ a remporté la victoire à Golgotha. Et parce qu'il a remporté la victoire, eh bien nous sommes appelés aussi à être victorieux. 2 Corinthiens chapitre 2, 14, il nous est dit « Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ » ou « qui nous mène toujours au triomphe » selon une autre traduction. Dans 1 Jean chapitre 2, verset 14, il nous est dit « Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. » Amen, gardons que la parole de Dieu habite et demeure en vous. Et enfin, dans Apocalypse chapitre 12 et verset 11, il est dit « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Amen. » L'épître aux Éphésiens est une épître tellement profonde. Une épître, et je me dis, ces Éphésiens étaient des idolâtres. Nous nous souvenons que c'était des adorateurs de la Diane à Éphèse. Et là, Paul va prêcher l'évangile et la puissance de Dieu va se manifester. Et il nous est dit que, eh bien, il brûlait des livres de magie, il y avait des choses extraordinaires qui se passaient, la puissance de Dieu se manifestait, et ce sont des hommes et des femmes qui sont passés de la mort à la vie. Leur vie a complètement changé. Et quand je lis ce que Paul leur écrit, je me dis, mais fallait-il que ces hommes et ces femmes soient réellement convertis, aient vraiment compris la grâce? Les choses qu'il écrit dans l'Épître aux Éphésiens sont des choses tellement profondes. Alors souvenons-nous que l'Épître aux Éphésiens dans le Nouveau Testament, c'est le Josué de l'Ancien Testament. Josué, c'était quoi? C'était la conquête du pays promis. Alors dans les deux cas, que ce soit dans le livre de Josué, Dieu leur a donné le pays de Canaan. Il leur dit « Je vous donne ce pays ». Mais ils ont eu à combattre. On se dit « C'est quand même, Dieu leur donne un pays, mais il faut combattre, il faut conquérir et s'emparer de ce pays ». Dans l'Épître aux Éphésiens, eh bien, il nous est dit que, eh bien, ils ont en Christ, il y a la plénitude de l'Esprit, mais il faut également combattre pour conquérir. L'Ancien Testament, c'était un territoire. Le Nouveau Testament, c'est conquérir, eh bien, les grâces, les dons, la bénédiction, l'action de l'Esprit, etc. C'est la vie de plénitude, l'Épître aux Éphésiens. Notre Dieu est grand. Et il fait de grandes choses. Et même quand on pense que, eh bien, c'est une intervention de Dieu, tout ce que Dieu fait est grand. Tout ce que Dieu fait est glorieux. Quelqu'un a été fortifié, c'est glorieux. Quelqu'un a été relevé à une parole d'encouragement, c'est glorieux. Tout ce que Dieu fait, si nous sommes debout à ce jour, c'est un effet de la grâce de Dieu, de la puissance de Dieu. C'est Dieu qui nous tient debout. Notre Dieu est tellement grand. Tellement grand, il a tellement de choses en réserve pour chacun d'entre nous, pour l'Église de Jésus-Christ. L'Église de Jésus-Christ n'est pas malade, elle n'est pas pauvre, elle n'est pas malheureuse, mais l'Église de Jésus-Christ est en marche vers le ciel, elle est en marche vers la sanctification. Dieu est en train de purifier, de sanctifier, afin que nous puissions être prêts pour le jour où Jésus va revenir la chercher. L'Église est belle, l'Église de Jésus-Christ, elle est belle, et nous devons nous réjouir de pouvoir nous rassembler, de pouvoir célébrer le beau nom de Jésus. Alors il nous appelle, le Seigneur, à un combat. Et nous voyons, comme nous l'avons dit, c'est seulement l'Esprit qui peut nous conduire dans ce combat spirituel. Seulement l'Esprit. Sinon, humainement, on combat un combat charnel. C'est les susceptibilités, c'est les animosités, c'est les rancunes, c'est les choses comme ça. Mais ça ne mène à rien. Et nous devons, comme nous l'avons entendu dans les prières, et je me réjouis d'entendre dans les prières ces choses qui sont une réalité, on veut dépasser ce stade-là de l'enfance, de charnel, mais on veut entrer dans ce combat de la foi, ce combat spirituel. Dieu nous appelle à cela. Et nous voulons voir la gloire de Dieu, et elle va se manifester. Dieu va se manifester au milieu de son peuple. J'aimerais m'arrêter ce soir sur le verset 13 et le verset 14, seulement trois expressions, on verra cela et on entrera plus dans les armes une autre fois, mais on va s'arrêter sur les trois expressions. Prenez toutes les armes de Dieu, il est parlé du mauvais jour, et il est dit tenir ferme après avoir tout surmonté. Alors Paul insiste quand même sur « tenez ferme et prenez toutes les armes de Dieu ». Mais d'abord, dans le mauvais jour. Alors, le mauvais jour, c'est quoi le mauvais jour? Paul ne se réfère pas seulement au jour où Jésus va revenir. Ce jour sera un mauvais jour pour les païens, pour les peuples, sera un mauvais jour, un jour de jugement, mais pour nous ce sera un jour extraordinaire quand le Seigneur va revenir. Mais dans ce texte, je ne crois pas qu'il est question de ce jour-là, ce jour mauvais, mais il est question d'autre chose. Paul se réfère à ce mauvais jour. Nous vivons dans un monde hostile. Hostile à l'Évangile, un monde mauvais, un monde qui la confrontation, la persécution s'intensifiera de plus en plus jusqu'au retour du Seigneur. Paul se réfère au fait d'une manière collective ou d'une manière individuelle. Il y a des jours mauvais dans notre vie et dans la vie de l'Église. Dans la vie des églises, il y a des jours mauvais. Et nous devons faire face à des périodes d'attaques spirituelles qui sont d'une intensité inhabituelle. Il y a dans notre vie individuelle et dans la vie de chacun, il y a des moments où il y a des attaques qui sont là et qui sont là pour nous faire tomber. C'est ça le jour mauvais. Et il nous faut dans ces jours-là, eh bien, nous saisir de ce que Dieu a mis à notre disposition. Parce que je crois que Dieu nous appelle à tenir debout, à être ferme dans ces attaques spirituelles. On ne se rend pas compte, comme je l'ai déjà dit, mais de tout ce qui se joue dans les lieux célestes. On ne voit rien, on voit d'une manière humaine. Mais l'Esprit de Dieu nous permet parfois de percevoir quelque chose, de percer dans ce domaine, et d'avoir ce discernement spirituel. Dieu veut que nous arrivions à une maturité spirituelle. Est-ce que nous en sommes convaincus? Sortir de l'enfance, arriver à une maturité spirituelle auquel il nous parlera différemment, auquel il y aura des combats différents, auquel il y aura un discernement, il y aura des choses que Dieu pourra nous révéler, comme dans l'Ancien Testament, où c'est formidable quand Dieu parle, Abraham plutôt parle à Dieu, et Dieu lui dit, mais cacherai-je secret à Abraham? Cacherai-je ce que je vais faire à Abraham? Il y a une telle intimité. Seul Abraham était au courant de ce que Dieu était en train de faire pour les villes de Sodome et de Gomorre. Seul Abraham. Pourquoi? Parce qu'il était ami de Dieu, il était proche de Dieu, et Dieu pouvait lui révéler des choses. Que Dieu fasse que nous puissions nous rapprocher, arriver à une maturité, sortir de l'enfance, sortir des réactions charnelles, des pensées charnelles, afin que l'Esprit de Dieu puisse nous conduire dans sa parole et nous parler précisément. Dieu parle précisément. Dieu veut nous révéler les choses, afin que nous soyons prêts. L'Esprit de Dieu est un esprit de révélation. Et ça devient vraiment intéressant quand nous grandissons en maturité. Et Paul le dira, il le dira aux Corinthiens, mais l'auteur de l'Épître aux Hébreux leur dira, je vous ai donné du lait parce que vous n'étiez pas capables de supporter la nourriture solide. Dieu a des choses profondes à nous révéler. Des choses qui nous transportent, des choses qui nous remuent à l'intérieur, des choses quand on lit dans la parole, précisément on se dit, mais c'est trop précis, c'est tellement précis, Dieu parle. Et ça nous rassure quand Dieu nous parle, ça nous rassure parce que, eh bien Dieu, bien sûr, il connaît tout, il sait tout, et il nous révèle un petit peu de son plan, de sa volonté, et c'est formidable. Donc dans les jours mauvais, dans les jours où il y a ces combats, ces forces d'une intensité inhabituelle, le mot lutte fait référence à un combat au corps à corps, un combat rude, endurant, je répète, individuel ou collectif, l'Église. Et nous avons des églises qui font face, des églises persécutées. Elles font face à ces forces infernales, à ces forces démoniaques. Dans notre monde, il y a des églises qui sont vraiment au combat, au corps à corps avec des forces démoniaques dans certains de nos pays. Et nous prions pour l'église persécutée. Et nous prions pour ces endroits où ils ne peuvent pas se réunir comme nous. Ces endroits où ils vont, certains se réunir au péril de leur vie. Ils se réunissent ensemble pour célébrer Jésus. Certains sont mis à mort, d'autres emprisonnés. Dans notre monde, il y a 50 pays qui persécutent les chrétiens dans le monde. Et plus encore. Mais au moins 50 qui persécutent nos frères et sœurs. Ils vivent des combats inhabituels. Nous, on ne vit pas cela. On est persécutés un petit peu, mais ça n'a rien à voir. Rien à voir. Et pourtant, ils restent fermes. La plupart, eh bien, ils tiennent bon. Ils continuent à adorer Jésus, à témoigner de Jésus au péril de leur vie. Ça, c'est les jours mauvais pour ces églises. Ça peut venir dans notre pays aussi. Ça peut venir dans notre pays. Est-ce qu'on sera prêt? Est-ce qu'on aura grandi en maturité tous les jours que Dieu nous permet, ces jours de grâce, ces jours où nous pouvons ouvrir librement la parole, où nous avons des outils extraordinaires partout sur Internet, nous pouvons méditer, étudier la Bible, nous fortifier, nous tenir devant le Seigneur. Nous avons ces jours et il faut profiter de ces jours parce que les jours mauvais, ils arrivent. Et que ferons-nous dans ces jours mauvais si nous n'avons pas pris l'habitude de ce combat, l'habitude d'être renouvelés, d'être fortifiés, d'être encouragés, sortis de ces combats charnels où il y a tellement de susceptibilité? Ah, il faut sortir de cela, sinon on ne pourra pas tenir dans les jours mauvais. Frères et sœurs, Dieu nous a tout donné pour que nous soyons vainqueurs, pour que nous soyons matures, que nous marchions dans la victoire. Il nous a tout donné. Comme dans l'Ancien Testament, dans les livres de Josué, ils avaient eh bien, les promesses de Dieu. Dieu leur a dit « Je serai avec vous et je combattrai pour vous ». Ils avaient les promesses et ils sont allés conquérir ce pays. L'apôtre Paul a eu souvent des jours mauvais dans sa vie. Quand il parle du jour mauvais, il sait de quoi il parle. Il a eu, mais toutes sortes, bon, on ne va pas le lire, c'est trop long, mais si vous notez, vous, dans 2 Corinthiens chapitre 11, du verset 23 au verset 28, dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 3 à 10, et d'autres encore, où l'apôtre Paul a été confronté, mais à des choses inimaginables. Pourquoi ? Pourquoi était-il confronté tellement ? Comment ? Bien sûr, il dérangeait. Il était rempli de l'esprit. C'était un homme à abattre. C'était l'ennemi public numéro un du royaume de Satan. L'ennemi public numéro un, c'était l'apôtre Paul, plutôt. L'apôtre Paul était l'ennemi public numéro un, l'homme à abattre. Et combien de fois l'ennemi a essayé ? Il dit, trois fois au moins, il est passé tout près de la mort. Mais Dieu l'a relevé chaque fois. Il était en guerre partout, dans l'Église, hors de l'Église, avec les autorités, avec les circonstances. En mer, il était en péril. Quand, les Juifs, partout, 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 il était en péril. Il était dans l'Église, on mettait en doute son ministère. Enfin, là, je trouve que c'est quand même gonflé. Bon, ça, c'est moi qui le dis. Hein. Mettre en doute le ministère de l'apôtre Paul. Qu'on mette en doute nos ministères, mais le ministère de l'apôtre Paul, l'église de Corinthe, mettait en doute. Bon, il faut le faire, mais ils l'ont fait. Mais en tous les cas, l'apôtre Paul, il terminera sa vie et il dira « J'ai combattu le bon combat ». 2 Timothée 4, 7. « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course ». Et j'ai gardé la foi. Mais je me dis, mais comment est-ce que c'est possible de supporter tout ce qu'il a supporté ? Quand on met bout à bout tous les textes qui nous parlent, il dit, mon ministère, voilà l'épreuve de mon apostolat. C'est pas, j'ai fait une campagne d'évangélisation, il y avait... Non, 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 j'ai enduré, j'ai eu de la patience, j'ai été persécuté, etc. Dans toutes ces choses, c'était l'épreuve de son apostolat, de son ministère. Vous trouvez dans... 2 Corinthiens 6, sa carte de visite, voilà tout ce que j'ai subi pour le nom de Christ. Ça veut dire que Christ était vraiment en lui, il était rempli, il a été gardé, il a été protégé, il a été délivré de la prison, de la gueule des lions, il nous dit, il a été en péril, il a reçu trois fois 39 coups, c'est inimaginable. Et Paul a été un instrument utile, béni entre les mains de Dieu. Vous savez que nous avons 13 épîtres de l'apôtre Paul. 13 épîtres. 13 lettres. Où nous nous faisons du bien. Nous bénissons Dieu pour ces lettres qui nous sont parvenues. Et pourquoi nous sont-elles parvenues ? Parce que Paul n'a pas refusé le combat. Paul est allé au-devant, il est allé partout, il n'a jamais baissé les bras, il a continué, il a persévéré, il est allé jusqu'au bout, et à la fin il peut dire « j'ai combattu le bon combat ». Et nous avons ces épîtres qui nous bénissent, ces épîtres, l'épître aux Éphésiens, c'est extraordinaire. Et ça c'est l'apôtre Paul, donc il sait de quoi il parle quand il parle du jour mauvais. Dans Romains 13, 12, il est dit « la nuit est avancée, le jour approche ». Dépouillez-vous donc des œuvres des ténèbres et revêtez les armes de la lumière. L'apôtre Paul exhorte chaque fois dans les mauvais jours à revêtir les armes offensives et les armes défensives. Donc retenez qu'il y a des jours mauvais. Il y en a eu peut-être dans votre vie, mais il y en aura encore. Et dans les jours mauvais, il nous faut être armés, il nous faut tenir ferme. Il nous faut proclamer la parole, il nous faut cette assurance, il nous faut la foi pour tenir ferme dans les jours mauvais. Ne sous-estimons jamais la puissance des ténèbres. Ne sous-estimons jamais. Parce que on le dit humblement, mais beaucoup sont tombés. Des ministères sont tombés. Des foyers sont partis à la dérive. Des églises sont parties à la dérive. Pourquoi ? Pas parce qu'ils étaient... parce qu'ils n'ont pas veillé, parce qu'ils ne se sont pas pris dans ce combat spirituel, et l'ennemi a fait des ravages, et il en fait encore aujourd'hui. Mais nous voulons lui opposer une foi ferme, dans le Christ Jésus, celui qui a été victorieux, celui qui l'a dépouillé, sur le bois de la croix, il a dépouillé les dominations et les autorités. Donc nous passons à la deuxième expression, tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenir ferme et résister, ne pas céder. Cela nous parle d'endurance, de persévérance, de ténacité, nous l'avons déjà vu cela. Nous avons parfois cette pensée qu'après avoir combattu un combat rude, nous allons pouvoir traverser des moments tranquilles un peu. Non ? Est-ce que ce n'est pas légitime de dire « je veux souffler un peu après avoir combattu, après avoir enduré tout cela, un combat rude, merci Seigneur, il m'a permis de surmonter, mais maintenant, je voudrais un peu... » On ne peut pas se le dire ça. Parce que le diable, il ne prend jamais de repos. Il n'est jamais à l'arrêt. Il n'est jamais... Non, le diable est toujours à l'œuvre. Et nous devons toujours veiller, toujours, 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 tous les jours, nous devons veiller parce que le diable est celui qui est comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Alors on veut lui opposer une foi ferme, ne pas céder, et dans ces moments difficiles, dans ces moments de combat, eh bien, c'est notre lot, mais cela nous forge, cela nous façonne, cela nous entraîne toujours au combat. Plus nous combattons et plus nous sommes entraînés au combat. Alors, c'est dans notre communion personnelle avec Dieu. Hein. C'est seul avec Dieu que ça démarre là, seul avec Dieu, avec la parole, et c'est suffisant. Vous voyez, on n'a pas besoin de beaucoup, la parole de Dieu, les genoux, et on passe du temps devant le Seigneur. Et on peut lui dire, Seigneur, hisse-moi sur ce rocher que je ne peux pas atteindre. Seigneur, que ton esprit m'emmène où je ne suis jamais allé. Seigneur, tu vois, dans la prière, j'arrive pas, exerce mes mains au combat. Seigneur, dans la prière, je demande les choses de la vie, les choses de la famille, etc., et après je m'arrête. Le Saint-Esprit veut nous conduire dans ces eaux profondes, plus que des eaux aux chevilles, mais dans les eaux profondes. Il veut le faire pour que nous soyons un instrument de bénédiction pour notre famille, mais pour l'Église aussi. Dans l'Ancien Testament, qu'est-ce qu'il cherchait, le Seigneur ? À un moment, il dit « je cherche ». Il cherchait quoi ? Un homme qui fait quoi ? Qui se tienne à la brèche et qui intercède en faveur du pays afin pour que je ne le détruise pas. Mais la Bible dit, je n'en trouve pas. Un homme qui se tienne à la brèche et qui intercède. Et quand Dieu parle de la prière, il dit, il parle de Samuel, il parle de Daniel. Il dit, c'était des hommes, même s'ils intercédaient, ça ne serait pas possible. C'était des hommes qui intercédaient, qui se tenaient à la brèche, afin que Dieu ne détruise point le pays. Et il cherche encore des intercesseurs aujourd'hui, le Seigneur. Ce n'est pas gratifiant d'être un intercesseur. Hein. Ce n'est pas gratifiant de mener le bon combat de la foi, parce que ça se passe la plupart du temps chez nous, et nous voulons combattre aussi ensemble le bon combat de la foi, mais chez nous ça se passe, personne ne nous voit. Il n'y a que Dieu qui nous voit. Et c'est pas gratifiant, mais c'est ce dont l'Église a le plus besoin. D'intercesseurs, de gens qui sont conduits par l'Esprit dans le combat. C'est là que nous remportons des victoires extraordinaires. Le diable peut lâcher ses proies. Vous savez que le diable aveugle l'Esprit, aveugle afin que les âmes ne voient pas briller la splendeur de l'Évangile. Il a cette capacité d'aveugler, de lier, de retenir. Et par la prière, par le combat, eh bien l'Esprit de Dieu va et délivre les captifs. C'est ce dont l'Église a le plus besoin. Aujourd'hui, comme au travers de l'histoire de l'Église, vous connaissez tous le témoignage de Finet, Finet, qui était cet homme de Dieu revivaliste au XIXe siècle, et le secret de sa puissance, le secret de ses bénédictions dans les missions qu'il faisait, se résumait, entre autres, mais surtout à un homme qui priait et intercédait. Et chaque fois que Finet devait faire une mission dans une ville, cet homme de Dieu y allait 3 semaines, 1 mois avant, il louait une chambre, l'hôtel, on se dit, mais comment c'est possible? Et il priait jour et nuit pendant 1 mois. Le temps de préparer la mission d'évangélisation de Finet. Et vous savez, quand cet homme est tombé malade, je crois, et est parti rejoindre son Seigneur, eh bien, Finet a arrêté les missions. Il attribuait la puissance spirituelle à cet homme de prière. Là, ça dépasse le cadre normal, bien sûr. Vous comprenez que ça dépasse le cadre normal quand un homme peut prier 15 à 20 heures par jour. Bon, ça dépasse le cadre, mais pour dire que, eh bien, il y a de la marge encore, hein, pour chacun de nous. Il y a de la marge. Bon, il ne nous appelle pas tous à avoir ce ministère-là d'intercession qu'a eu cet homme. Sur sa tombe, c'est marqué, c'est Georges Nash, je crois, homme de prière. Voilà, c'est tout. Homme de prière. Mais que c'est beau, que c'est beau. Et le Seigneur nous appelle à combattre, à rentrer dans ce combat, et qu'on puisse, Dieu peut nous révéler des sujets, des personnes, pendant que nous intercédons, peut nous donner une vision, une révélation de quelqu'un qui a besoin de prière, afin que nous puissions intercéder, afin qu'il soit libéré. Plusieurs en ont fait l'expérience. C'est tellement fort, c'est tellement puissant. Il n'y a pas de limite, on ne peut pas rester en surface, on ne peut pas avoir les pieds dans les chevilles, de l'eau jusqu'aux chevilles, pardon. On ne peut pas rester comme ça, il faut aller plus loin, il faut aller en profondeur. Dieu nous appelle à cela. Et vous savez que la chair, elle ne veut pas. Vous pouvez faire tout ce que vous allez faire, la chair ne dira rien. Mais quand vous voulez placer du temps, je parle du temps, vraiment du temps, dans la prière, hop, l'esprit commence à vagabonder. Non, ça ne vous est pas arrivé à vous? Moi, ça m'a... L'esprit commence à vagabonder. On est là, on pense à autre chose. Il faut revenir, il faut lire la parole, et prier encore, et prier. Et il y a un moment où on dépasse un cap, et ça y est, on rentre. Alors ça peut dépendre un peu, une demi-heure, une heure, je ne sais pas. Ça peut, voilà. Et à un moment donné, notre esprit va vraiment, le Saint-Esprit va saisir et on va aller plus loin. C'est intéressant, ça. Mais la chair, elle refuse. Le diable refuse. Et il fera tout pour nous distraire. Il fera tout pour nous empêcher de placer du temps. Alors le matin, on va dire, j'ai pas assez dormi, je suis fatigué. Le soir, je suis fatigué, j'arrive pas, il faut que j'aille me... Alors c'est quand qu'on va prier comme ça? Il faut prévoir du temps. Il faut dire, voilà, là, je réserve du temps pour le Seigneur. Je veux entrer dans ce combat spirituel. On va aller un petit peu plus loin. Dans Romains 16, verset 13, il est dit « Veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous. » Dans Hébreux 3, 14, « Retenez fermement jusqu'à la fin l'assurance que vous aviez au début. » Fermement, on retient ferme. Dans Hébreux 4, 14, « Demeurons fermes dans la foi que nous professons. » Dans 10, 23, Hébreux 10, 23, « Retenons fermement la profession de notre espérance. » Dans 2 Corinthiens 1, 24, vous êtes fermes dans la foi. » Que Dieu nous garde toujours, que nous puissions garder ce que Dieu a mis dans notre cœur. Le contraire de retenir fermement, le contraire de cela, de persévérer, de veiller, le contraire c'est de se relâcher. Dans Proverbes 18, 9, il est dit « afin que celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit ». Négligé, maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre du Seigneur. On peut mettre d'autres synonymes, indifférent, frivole, indolent, léger, laisser aller, imprévoyant, oublieux, Voilà, on peut mettre tout ça. Et ça, il ne faut pas laisser ces choses gagner notre cœur. L'indifférence, la légèreté, dire « bon, ben, j'ai pas le temps, on verra ça plus tard ». On verra le reste plus tard, mais ça, il faut le voir de suite. Le reste, ça peut attendre, tout peut attendre. Mais pas ce contact avec le Seigneur. Pour tenir ferme, dans l'épître de Jacques, il est dit, 4:7, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Soumettez-vous à Dieu. Dans l'Ancien Testament, on ne va pas le lire, mais je vais le... Dans 2 Samuel, chapitre 23, versets 11 et 12, il est question de Shama, un homme qui avait un champ de lentilles. Et il était conscient que ça venait de la part de l'Éternel. Et la Bible nous dit que quand les Philistins sont arrivés, ils ont tous pris la fuite. Mais lui, Shama, il a combattu. Il a combattu, et la Bible nous dit que Dieu accorda une grande délivrance au peuple. Un homme a dit « Non, je n'aurai pas peur, je résisterai, je me battrai, je tiendrai parce que ça, ce champ, c'est Dieu qui me l'a donné et je veux le protéger et je veux le garder. » Un homme qui c'est un intercesseur, voilà, lui il a combattu, mais ça nous parle d'un intercesseur. Et Paul dira à Timothée « Garde le bon dépôt que tu as reçu jusqu'à la fin. Le diable veut nous l'enlever. » Et cet homme, à cause ou grâce à un homme, eh bien, il y a eu une grande délivrance pour le peuple d'Israël. Et je vais un peu plus loin. Prenez toutes les armes de Dieu. Alors, Paul insiste beaucoup. On se dit, il insiste beaucoup sur prenez toutes les armes, tenez ferme, après avoir tout surmonté, encore tenez ferme, résistez. Etc. Ça nous parle de la lutte. C'est un combat âpre. Ne sous-estimons jamais ce qui se passe dans les lieux célestes. Si le diable nous laisse tranquille, c'est que nous sommes quand même en danger. Quand le diable nous attaque, même de toutes parts, j'allais dire c'est bon signe. Hein. Parce que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Si le diable nous laisse tranquille, que nous ne sommes pas du tout dangereux pour lui, ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de l'esprit. Mais quand l'esprit commence à remplir notre cœur, l'ennemi, eh bien, il va nous attaquer parce qu'il sera dérangé. Toutes, pas une seulement d'armes, mais toutes les armes, sont nécessaires, indispensables, utiles et puissantes. Dans 2 Corinthiens chapitre 10, verset 4, il est dit « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. » Amen. Elles sont puissantes. Ce que Dieu a mis à notre disposition, c'est puissant. Le diable, il ne peut pas résister. Si nous avons l'esprit, si nous avons l'armure, les armes de Dieu, le diable ne peut pas résister. Extraordinaire. Alors que naturellement, nous ne faisons mais pas le poids une seconde contre lui, mais remplis de ce que Dieu nous a donné, revêtus des armes de Dieu, combattant par la foi, eh bien le diable est obligé de battre en retraite. Il a battu en retraite vis-à-vis de Jésus. Il a battu en retraite vis-à-vis de l'apôtre Paul, vis-à-vis d'autres serviteurs et d'autres servantes, il a battu en retraite. Alors nous avons dans ce passage, du verset 10 au verset 20, nous avons trois sections. La première, c'est l'explication du combat, versets 10 à 13. Ensuite, nous avons l'équipement pour le combat, de 14 à 17. Et nous avons enfin l'exécution du combat, de 18 à 20. Et souvent nous demeurons dans la première section, l'explication du combat. Il faut aller plus loin. C'est pas seulement un exposé ce soir, c'est pas seulement une étude, ça doit être plus que cela, ça doit être une exhortation à entrer dans ce combat auquel Dieu nous appelle. Oui, nous restons dans l'explication du combat. Il nous faut aller plus loin, revêtir l'armure, et combattre avec les armes défensives et offensives. Alors comment sommes-nous au bénéfice de la puissance de Dieu? Nous devons toujours nous rappeler que Jésus est le chef de notre foi, le chef de notre salut. Les chrétiens sont des soldats individuels dans une grande armée. Vous savez que l'armée du Seigneur, elle est grande, celle visible. Mais si Dieu nous ouvre les yeux pour voir celle qui est invisible, elle est encore plus grande. Plus grande. Alors, dans une grande armée qui mène une grande campagne, les perspectives ultimes, ce n'est pas notre combat individuel, personnel, mais c'est celui de Dieu. La bataille appartient au Seigneur. Dieu nous conduit et conduit de nombreux fils à la gloire. Alors le chef de l'armée, c'est Jésus. Souvenons-nous quand Josué était près de Jéricho, cette ville était imprenable, impossible de rentrer, impossible, des murailles, vous connaissez le texte. Ils avaient l'ordre de prendre Jéricho, c'était la première ville, il fallait la prendre et entrer plus loin dans Canaan. Mais comment faire devant cette ville fortifiée, comment faire? Alors j'aime ce texte dans Josué au chapitre 5, où nous voyons, au moment où ils doivent se poser des questions, ils doivent voir ces murailles imposantes, tellement grandes, ils doivent se dire, mais comment allons-nous? Et là, juste là, il nous est dit, dans Josué chapitre 5, verset 14, il voit arriver quelqu'un, il lui dit, es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Il dit, non, je suis le chef de l'armée de l'Éternel, j'arrive maintenant. Et Josué tomba sur sa face. J'arrive maintenant. Waouh, c'est tellement beau. Comment faire? Ben, Dieu va leur donner la stratégie. Dieu va leur donner la stratégie. Comment prendre cette ville? Et je crois que Dieu nous montre les choses, comment nous devons les faire. Quand Dieu nous les montre, il veut nous les révéler. Que Dieu nous aide, frères et sœurs, les uns et les autres, là où nous sommes, d'aller plus loin. Je veux dire, voilà, moi j'en suis là. Voilà, ma vie de prière, ce n'est pas un combat, c'est juste, voilà, je médite. Voilà, eh bien, là où tu es, mon frère, ma sœur, va plus loin. Demande au Seigneur qu'il te conduise, qu'il me conduise, qu'il nous conduise. Chacun là où nous sommes, nous allons aller plus loin. Nous allons être non pas seulement vivre pour nous, pour notre bénédiction personnelle de notre famille, mais vivre pour la bénédiction de l'Église, le salut des âmes que le diable retient captive. Et si nous sommes un instrument de bénédiction, un intercesseur, celui qui combat le bon combat de la foi, nous allons remporter des victoires, l'Église va remporter des victoires, mais on ne va pas dire c'est un tel qui a prié dans sa chambre, non, on ne le dira pas, mais Dieu sera glorifié. Et ça c'est important. Et je termine avec juste deux promesses qui sont là. Dans le psaume 18, nous connaissons ce psaume de David, psaume 18 verset 34, « Il rend mes pieds semblables à ceux des biches, il me place sur des lieux élevés. » Amen. Des lieux élevés, au-dessus des rumeurs, au-dessus de tout ça, il me place. Il exerce mes mains au combat et mes bras tendent l'arc des reins. C'est lui qui exerce nos mains au combat. On ne sait pas combattre, comment un combat aussi, on ne sait pas, mais Dieu exerce nos mains au combat. Et dans Isaïe 59, verset 19, « Quand l'ennemi viendrait comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettrait en fuite. » Frères et sœurs, il y a des combats qui sont devant nous. Ne refusons pas le combat. Ne partons pas comme ce peuple devant les Philistins. Ils sont tous partis. Ils ont laissé la responsabilité à un Shama, un seul, qui a voulu garder le champ de lentilles que Dieu leur avait donné. Un seul. Non, je crois qu'il ne faut pas démissionner, il ne faut pas baisser les bras, il ne faut pas dire c'est trop dur, il ne faut pas dire j'ai... Non, nous sommes appelés à combattre. Si nous sommes disciples, nous sommes appelés à combattre. Si nous refusons ce combat, je ne sais pas comment ça peut se passer, mais bon, la Bible elle nous exhorte à combattre le bon combat de la foi. Amen. Et il y aura des victoires, des choses, on dira, mais tiens, ça change, il y a des choses qui se passent là, là-bas, tiens, un tel, waouh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On ne sait pas qui aura prié, mais ils auront prié dans la chambre, dans le lieu secret, et l'Esprit de Dieu ira visiter, ira fortifier, délivrer. Tiens, on voit un tel, il arrive, on ne sait pas d'où, mais waouh, déjà il est prêt, son cœur est ouvert, il reçoit l'Évangile. Merci Seigneur, ça va se passer. Des guérisons, waouh, assis sur la chaise, personne n'y a imposé les mains, il a été guéri. Mais ça c'est l'Esprit de Dieu, frères et sœurs. Dites-vous, voilà, Dieu est tellement grand. Ce que je vis, c'est, oui, Seigneur, merci Seigneur, parce que tu m'as tenu, tu m'as gardé debout. Mais tu ne m'appelles pas juste à tenir debout pour moi-même, mais tu m'appelles à combattre pour l'Évangile, pour l'œuvre de Dieu. Amen. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci parce que tu nous appelles à Seigneur, conquérir. Tu nous appelles à recevoir, tu nous appelles, Seigneur, à nous emparer de ces biens spirituels. Seigneur, merci, tu nous appelles aussi à délivrer les âmes, ceux qu'on traîne à la mort, tu nous dis, délivre-les. Seigneur, merci d'exercer nos mains au combat, de fortifier nos genoux chancelants. Seigneur, que nous puissions être conscients que nous ne vivons pas pour nous-mêmes, pour notre propre bénédiction. Nous ne combattons même pas que pour nous-mêmes, mais nous combattons pour l'Église, nous combattons pour la gloire de Dieu, nous combattons pour le salut des âmes, pour le bien des pécheurs. Seigneur, nous combattons pour cela, pour que le diable lâche ses victimes. Seigneur, nous combattons afin que les couples soient fortifiés. Nous combattons afin que les ministères soient solides. Nous combattons afin que les églises prêchent la vérité et que l'Esprit de Dieu se manifeste dans l'Église. Merci de nous équiper, de nous donner, de nous hisser sur ce rocher que nous ne pouvons pas atteindre tout seuls. Bénis mes frères, mes sœurs. Tu vois, peut-être quelqu'un est chancelant, a du mal à prier. Seigneur, bénis-le ce soir. Bénis celui qui a du mal à se tenir devant toi. Seigneur, bénis-le richement et qu'il puisse témoigner et dire, ça y est, maintenant, je suis entré dans le vrai combat. Seigneur, nous te louons de tout notre cœur. Nous te louons, Seigneur. Amen.